Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, Union européenne, USA, quelle autonomie stratégique?
Eh oui, on va faire un petit détour. La France et l'Allemagne en quête d'autonomie stratégique. Ça, c'était les mots de Bruno Le Maire hier au sujet de l'Airbus de la batterie. Alliance industrielle, mais qui pourrait être amenée à être déclinée en alliance diplomatique et militaire 2 jours après le forum sur la sécurité de Munich, sous forte pression américaine. On voit ça avec vous, Pascal Boniface. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes le directeur de l'IRIS et auteur de Requiem pour le monde occidental, publié il y a un mois chez Erol. Ce monde occidental qui s'interrogeait donc à Munich à la fin de la semaine dernière. L'alliance transatlantique peut-elle durer? L'UE est-elle prête à sa défense? C'était deux questions posées qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et pour cause peut-être d'abord un forum où les dirigeants européens étaient assez singulièrement absents, mis à part Angela Merkel. C'est assez étonnant cette configuration, non?
Oui, effectivement. Alors on peut dire que Mme Theresa May était prise par le Brexit et Emmanuel Macron par les Gilets jaunes. Et que donc ces deux grands dirigeants habituellement présents à ce sommet n'étaient pas là pour des raisons de politique intérieure. Par contre, Mme Merkel, qui, elle, jouait à domicile, était là et elle a tenu un discours qui était très fort et qui était vraiment très opposé à celui qu'avait fait Mike Pence la veille, le vice-président américain. Et jamais peut-être une chancelière allemande n'avait eu un discours aussi fort et aussi opposé aux thèses du président et de l'administration américaine.
Oui, je crois qu'il y a même une rencontre entre Mike Pence et Angela Merkel, où Pence disait « l'Amérique est plus forte qu'avant, l'Amérique est à nouveau en position de leader sur la scène mondiale », alors qu'Angela Merkel, elle, disait « il y a un risque de perte de la coopération multilatérale, je la cite, nous ne pouvons pas juste la briser en 1000 morceaux ». C'était aussi cette ambiance, on pourrait dire d'abord, de deuil du multilatéralisme, ce forum.
Oui, effectivement. Alors disons que les États-Unis ont toujours eu une politique plus unilatérale que les Européens. Pour les Européens, le multilatéralisme fait partie de leur ADN stratégique. Mais on peut dire que jamais une administration avait poussé l'unilatéralisme à un tel degré. Et effectivement, sur cette notion quand même très forte, ce concept très fort, il y a un divorce profond. Mike Pence peut dire que l'Amérique est plus forte, mais elle est plus forte seule. Elle est plus forte sans les autres, voire souvent contre les autres, alors que les Européens, et Mme Merkel en tête, plaident, ainsi que le président Macron d'ailleurs, pour un multilatéralisme fort, multilatéralisme qui, il faut bien le reconnaître, est profondément en crise.
Et cela alors même, et c'est ce que vous expliquez tout au long de votre livre, que ce qui est en jeu en grande partie, c'est aussi l'avenir de l'Alliance Atlantique, l'OTAN justement. En quelques mots, ou pendant ces quelques jours, comment est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'écart ou le fossé? Je crois que c'était Aikomas qui disait en juillet ou en août dernier que l'Atlantique s'est élargi, il s'est encore élargi pendant ce sommet.
Oui, il s'est encore élargi, effectivement, du fait des positions radicalement opposées et des tentatives du vice-président d'imposer les volontés américaines, notamment sur l'Iran, le fait de reprocher très vertement aux Européens de vouloir continuer à maintenir l'accord alors que ce sont les États-Unis qui s'en sont retirés. Donc effectivement, là, il y a un fossé très grand. Donald Trump avait menacé de quitter l'OTAN, il ne le fera pas, c'est trop dans l'intérêt des États-Unis, mais sa conception de l'OTAN n'est pas une conception entre pays alliés, c'est une conception où un pays décide de tout, les États-Unis, et les autres doivent obéir. Il y a plus en fait des vassaux que des alliés, et bien sûr pour des pays comme la France, l'Allemagne, mais y compris le Royaume-Uni, et ça c'est extrêmement important, y compris le Royaume-Uni a refusé de suivre les États-Unis sur l'affaire iranienne, tant pour l'arrêt de l'accord sur le nucléaire que le fait de devoir arrêter sur injonction américaine d'avoir des relations commerciales ou politiques avec l'Iran.
Oui, des vassaux et des junkies stratégiques, hein, c'est votre expression dans le livre. Justement, est-ce qu'il y a vraiment un risque de remise en cause de cette alliance stratégique otanesque, sachant que on a plutôt l'impression qu'elle se renforce du côté américain, notamment du côté de la défense des missiles, on en a parlé récemment.
Oui, effectivement. Alors, et aussi, il y a un divorce entre les pays d'Europe de l'Ouest et les États-Unis, mais il y a un autre divorce qui est entre les pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est, puisque les nouveaux venus à la fois dans l'OTAN et dans l'Union européenne sont, eux, très fortement pro-américains. Les Polonais ont même proposé de verser 2 milliards d'euros aux États-Unis pour qu'ils construisent une base militaire qu'ils qualifieraient, qu'ils baptiseraient Fort Trump sur leur territoire. Et donc là, il y a ce double divorce entre les anciens pays de l'OTAN européen et les États-Unis, mais entre ces pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est.
Oui, et avec en toile de fond, encore plus à l'Est, cette relation à la Russie qui est, on pourrait dire, prisonnière d'une sorte de double préjugé assez tenace, très favorable à l'égard de ce que vous appeliez le monde occidental, et plutôt défavorable par rapport à la Russie, à qui on attribue à la fois un pouvoir de nuisance et puis une faiblesse quasi endémique depuis 1990. Ce sont deux erreurs, ces jugements, disons.
Oui, effectivement, il y a deux visions contradictoires mais qui s'appliquent en même temps, de penser que la Russie ayant perdu la guerre froide, elle n'a plus son mot à dire et qu'on peut lui imposer ses volontés, qu'elle n'a qu'à obéir aux États-Unis, aux Occidentaux, et en même temps de la présenter comme une menace existentielle pour notre sécurité, une menace qui serait aussi forte que ne l'était à son époque la menace soviétique. Qu'il y a un défi stratégique russe, c'est une évidence, effectivement. Nous ne sommes pas d'accord sur certains points et les relations sont crispées, mais en termes de menace militaire, elle est très largement exagérée par l'OTAN, notamment pour justifier d'ailleurs le maintien de l'OTAN et l'augmentation des dépenses militaires européennes qui, au final, finalement, serviront à aller venir acheter des équipements militaires aux États-Unis.
Oui, des dépenses qui doivent atteindre 2% du budget d'ici 2024. Il y a des pressions américaines très importantes de ce point de vue-là. Donc pas de risque d'explosion de l'Alliance. Au contraire, peut-être un renforcement, dernière chose sur l'OTAN, avec cette initiative qu'on appelle 4x30, 30 bataillons, 30 escadrilles, je crois 30 navires déployables en 30 jours. Là encore, c'est quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens de l'autonomie stratégique alors.
Non, mais le fait que les Européens renforcent leur capacité stratégique, c'est une bonne chose, à condition qu'ils aient un projet autonome. Il ne s'agit pas d'ailleurs de s'opposer en tant que tel aux États-Unis, mais d'être capable d'agir sans eux en cas de désaccord grave. Si quelque chose se produisait de grave dans les Balkans, il n'est pas certain que les États-Unis interviendraient. Et donc, il serait nécessaire que nous soyons prêts. Et lorsqu'il a fallu intervenir en 2013 au Mali, eh bien, il était heureux que la France ait des capacités d'action autonome pour agir dans l'urgence par rapport à un défi majeur.
Alors ça, c'était pour le Sahel, effectivement. Tout récemment, il y a eu une prise de position attendue de la part des Européens. C'est ce mécanisme INSTEX qui doit permettre de faire du troc dans certains domaines avec l'Iran, du troc en euros. C'est pas suffisant, a dit Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères. Et il a ajouté, l'Europe doit se mouiller si elle entend nager contre les dangereux courants de l'unilatéralisme américain. Ce mécanisme, il est réellement opérationnel ou il est, déclaratoire.
Il est les deux, c'est-à-dire qu'il est opérationnel et c'est un signal politique très fort envoyé aux États-Unis en disant que on ne cédera pas à votre chantage. Et le fait que non seulement la France, mais également l'Allemagne et plus encore le Royaume-Uni y participent est effectivement un signal politique très fort. Mais d'un autre côté, on voit que les grandes compagnies nationales et européennes, Air France, Total, Peugeot, ont quitté l'Iran. Donc cela permettra de continuer à commercer pour des PME, pour des entreprises. Les très grandes entreprises, elles, ont préféré arbitrer en faveur du marché américain plutôt que du marché iranien. Mais ce qui est important avec ce dispositif, c'est le signal stratégique. C'est donc un début d'autonomie et de montrer que les Européens ont leur propre agenda et n'ont pas à suivre de façon passive l'agenda américain.
Et alors concernant les autres leviers d'autonomisation stratégique, là j'évoquais ce rapprochement économique sur l'Airbus de la batterie, mais il y a aussi des projets industriel militaire avec récemment le lancement du SCAF, cet avion commun entre Paris et Berlin. C'est une vraie pierre également ou quelque chose qui a amené à ne pas avoir d'horizon? On parle de 2030-40 quand même pour cet avion.
Oui, mais c'est essentiel, c'est de savoir est-ce qu'il y aura encore un avion de combat européen ou est-ce que l'on sera tous forcés d'acheter des avions américains. Le but de l'industrie de défense américaine est de tuer l'industrie de défense européenne et là-dessus, les industriels allemands en sont très conscients et donc ils travaillent étroitement avec les Français. Il faut éviter l'erreur qui a été faite dans les années 80 d'avoir deux avions de combat, l'un français, l'un allemand. On ne survivrait pas à une telle division et si on veut peser par rapport aux Américains, il faut également unir nos forces. Là, on peut regretter par exemple que récemment, les Belges aient choisi le F-35, l'appareil américain. Il faut vraiment, il est vital pour nous que nous ayons des équipements militaires européens et ne soyons pas dépendants des États-Unis pour ce domaine.
Oui, oui, sachant qu'il existe déjà un certain nombre de matériels en commun quand même. Toute dernière chose, qui est-ce qui fait le plus pression aujourd'hui pour ce matériel? Est-ce que c'est pas les industriels, paradoxalement? Il y avait le président exécutif d'Airbus qui disait « Cela nous rend fous depuis des années à Airbus que la partie allemande se donne le droit de bloquer la vente d'un hélicoptère parce qu'il y a des pièces allemandes dedans. » Est-ce qu'on sent pas une certaine tension de ce point de vue-là?
Oui, effectivement, par rapport à l'exportation, et là il s'agissait de l'exportation en destination de l'Arabie Saoudite, qui pose un problème. Les Allemands, notamment depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi, s'opposent à cela. Mais effectivement, il faudrait que chaque pays soit libre de vendre le matériel à qui il veut bien et qu'on ne puisse pas se bloquer mutuellement. Le débat sur les relations avec l'Arabie Saoudite est autre chose, mais on sait très bien que l'industrie européenne a besoin d'exportation pour vivre, parce que le marché national ou européen n'est pas suffisant en termes de taille.
Bon, mais à voir les prochains développements diplomatiques de cette autonomisation, Conseil de sécurité européen ou parapluie nucléaire français, peut-être des rêves pour l'instant, mais merci pour vos explications aujourd'hui, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, et on renverra à votre livre, évidemment, Requiem pour le monde occidental, relever le défi Trump, c'était chez Erol.